Radio Prague, les informations.
La République tchèque et l'Autriche sont favorables à une adhésion rapide de la Croatie à l'Union européenne. Élection présidentielle, Jan Švejnar lance sa campagne mais ne sait pas encore s'il va renoncer à la citoyenneté américaine et les communistes pourraient présenter leur candidat à l'élection présidentielle. L'Autriche et la République tchèque sont favorables à un aboutissement dès 2009 des négociations d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Nous soutenons tous les deux une entrée de la Croatie dans l'Union et pensons que le nouveau gouvernement croate saura prendre des mesures nécessaires pour qu'une adhésion soit décidée en 2009 et effective en 2010. C'est ce qu'a déclaré le chancelier autrichien Alfred Gusenbauer à l'issue d'une réunion avec le Premier ministre tchèque Milek Topolánek à Vienne. Ce dernier a souligné que Prague, qui assumera la présidence tournante de l'Union au premier semestre 2009, entendait jouer à cette occasion un rôle clé dans la conclusion des négociations d'adhésion avec Zagreb. Parmi les autres sujets abordés, la centrale nucléaire de Temelin, que Mirek Topolánek a démenti vouloir agrandir, l'intensification de la coopération entre les polices des deux pays et le contrat d'armement négocié avec la société autrichienne Steyr, mais annulé le mois dernier par le gouvernement tchèque. Le parti communiste de Bohême et de Moravie, KSČM, pourrait choisir une nouvelle tactique en vue de l'élection présidentielle du 8 février prochain. Ne voter ni pour l'actuel chef de l'État Václav Klaus, ni pour son challenger Jan Švejnar au premier tour et trouver un candidat authentiquement de gauche pour le deuxième tour. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le vice-président du KSČM, Jiří Dolejš, au quotidien Hospodářské noviny. Rappelons que lors de la précédente élection, les voix des élus communistes avaient aidé l'actuel président à l'emporter. Et quant à Jan Švejnar, qui entame une tournée dans les principales villes du pays pour faire campagne, il a indiqué ce lundi qu'il n'avait toujours pas pris de décision concernant sa double nationalité. « Je suis en train de réfléchir », a-t-il répondu à la question, de savoir si et quand il allait renoncer à la citoyenneté américaine pour se présenter à l'élection, tout en soulignant qu'en République tchèque et dans d'autres pays, avoir une double nationalité n'avait pas empêché certains de devenir ministres, par exemple. Rappelons que l'actuel ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, a la nationalité suisse, mais l'actuel président lituanien, Valdas Adamkus, avait renoncé en 1998 à la citoyenneté américaine la veille de son investiture. Et puis après la Turquie en 2007, c'est la République tchèque qui accueillera cette année, du 14 au 18 janvier à Brno, la troisième réunion annuelle du projet EDEN, relatif aux maladies émergentes en Europe, dans un environnement en évolution. Il s'agit d'un projet de la Commission européenne visant à anticiper, prévenir et intervenir face aux émergences de maladies à transmission vectorielle en Europe. On termine ce bulletin comme d'habitude avec la météo. Et mardi, jour de fête des Čestmír en République tchèque, le temps sera toujours variable, nuageux avec des éclaircies. Côté température, elle se situe entre 0 et 4 degrés Celsius. C'était le bulletin d'information présenté aujourd'hui par Alexis Rosenzweig. Dans un instant, la suite du programme en français.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour, vous écoutez bien Radio Prague et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission en langue française du début de la semaine. On débutera avec une découverte de premier ordre réalisée par une équipe archéologique tchèque qui mène des fouilles sur le site des pyramides d'Aboussir. Notre collègue Václav Richter nous parlera ensuite d'un projet qui vise à raser la cité universitaire située sur la colline de Strahov à Prague. Des lotissements de luxe devraient remplacer les studios des étudiants. Un fait divers a alimenté l'actualité de ces derniers jours, le cas d'un SDF qui a sauvé un nouveau-né et qui s'est retrouvé au centre de l'attention médiatique. Une attention qu'il a eu du mal à gérer. Au-delà, cette histoire pose la question des sans-logis et de savoir comment des gens peuvent se retrouver sans toit. Voilà pour le programme du jour. Bonne écoute à tous. Les sables d'Égypte n'ont apparemment pas fini de dévoiler leurs trésors. Une équipe d'archéologues tchèques travaillant sur le site des pyramides d'Aboussir a fait une découverte unique en novembre dernier, mais révélée seulement ces derniers jours dans le quotidien Mladá Fronta Dnes. Sous la direction de l'égyptologue Miroslav Barta, les fouilleurs ont mis à jour une chambre funéraire intacte du 3e millénaire avant Jésus-Christ, qui a miraculeusement réchappé au pillage. Cela faisait 50 ans qu'une découverte semblable ne s'était pas produite. Un événement donc, d'après le professeur Ladislav Bareš, directeur de l'Institut d'égyptologie tchèque de l'Université Charles.
Il y a extrêmement peu de tombes non pillées et aussi bien conservées pour cette époque de l'histoire égyptienne. Chaque tombe découverte est toujours un point de vue intéressant pour comprendre les traditions funéraires égyptiennes, mais aussi, plus généralement, leurs us et coutumes et leur manière de penser.
La tombe découverte par l'équipe tchèque est celle d'un homme répondant au nom de Neferinpou. Situé au fond d'un puits de 10 mètres de profondeur, son entrée était murée avec de la brique et de la pierre. Ce n'est qu'après avoir découvert où celle-ci se trouvait que les ouvriers ont pu petit à petit dégager le passage. C'est alors ouverte à l'équipe une chambre funéraire de 4 mètres sur 2 et d'une hauteur de 1,30 m. Et au milieu de la chambre, un sarcophage en calcaire, intact donc, abritant la dépouille. Ladislav Bareš nous en dit plus.
Cette découverte présente la tombe d'un fonctionnaire, d'un dignitaire égyptien. Il s'agissait d'un prêtre responsable de l'office des morts, c'est-à-dire un fonctionnaire royal inférieur. Il a été enterré avec sa canne, symbole de son pouvoir, et avec plusieurs vases. Cela indique une certaine position, et donc comment des fonctionnaires de son niveau vivaient, quelle fortune ils avaient. Quelles étaient les récompenses du roi? En effet, il est impensable que la tombe et son contenu n'aient été autre chose que le résultat d'un cadeau royal.
Le fonctionnaire égyptien n'était pas momifié et ses restes sont en très mauvais état. Comme le précise le chef de la fouille, Miroslav Barta, dans une interview au quotidien Mladá Fronta Dnes, la suite va consister en une analyse anthropologique du squelette du fonctionnaire. D'après les premières conclusions de l'équipe, le prêtre serait décédé à l'âge de 50 ans, un âge relativement avancé pour la période de l'Ancien Empire. Rappelons que l'Institut égyptologique tchèque possède une concession sur le site d'Aboussir à 25 km du Caire, où elle mène ses recherches depuis les années 70 sous la direction de l'égyptologue Miroslav Werner. Comme le rappelle le directeur de l'Institut, Ladislav Bareš, les recherches de l'équipe tchèque continuent dans trois directions. D'une part, les tombes royales de la 5e dynastie. Ensuite, la partie sud du site où a été découverte la tombe de Neferinpou va continuer d'être fouillée, car il s'agit d'une zone où sont enterrés d'autres fonctionnaires égyptiens. Enfin, une troisième zone est étudiée par les Tchèques datant d'environ 500 ans avant Jésus-Christ, époque à laquelle les Perses ont fait la conquête de l'Égypte. Peut-être d'autres découvertes à suivre donc. La cité universitaire de Strahov, à Prague, dans laquelle sont logés quelques 5000 étudiants, risque de disparaître de la carte de la capitale. Il s'avère de plus en plus probable que cet ensemble urbain sera démoli et remplacé par un luxueux quartier résidentiel. Plus de détails avec Václav Richter.
L'ensemble de Strahov se trouve sur la colline de Petchin, non loin du centre de Prague, et offre une vue splendide sur la capitale. L'endroit fait donc rêver les entrepreneurs en bâtiment et les chefs d'agences immobilières, car la construction de nouveaux logements à Strahov serait sans doute une affaire bien lucrative. Au début des années 1960 a été construit à cet endroit un grand centre d'hébergement pour les participants aux Spartakiades, grande fête gymnique du régime communiste, qui avait lieu tous les 5 ans au stade de Strahov se trouvant à proximité. L'ensemble de bâtiments a été ensuite remanié à peu de frais et transformé en centre d'hébergement pour les étudiants de la CVUT, École supérieure polytechnique de Prague. Déjà à l'époque, la cité universitaire n'était pas très confortable et avec le temps, les conditions dans lesquelles vivaient les étudiants devenaient de plus en plus précaires. Il se peut cependant que bientôt l'aspect du plateau de Strahov change complètement, selon le directeur du département du développement de la capitale de la mairie de Prague, Božek Votava. La ville lance un appel à concurrence pour la nouvelle conception urbanistique de cet endroit. Božek Votava, cité par le journal Lidové Noviny, souligne que la nouvelle conception concernera non seulement la cité universitaire, mais aussi l'immense stade, des parcs de stationnement à proximité et pratiquement tout le plateau de Strahov. Le résultat de l'appel à concurrence pourrait également trancher le débat sur l'avenir de la cité universitaire. Elle pourrait être transférée à Rosigné, une banlieue située assez loin du centre, près de l'aéroport de Prague. La CVUT n'est pas en principe contre une telle solution, mais selon la directrice de son département des relations extérieures, Andrea Mondrakova, elle pose d'ores et déjà deux conditions incontournables. La nouvelle cité doit être située à un endroit bien accessible par les transports urbains et sa construction ne doit pas être financée par l'école. Les étudiants. leurs opinions sur le projet sont mitigées. D'une part, ils regrettent de quitter un site situé au cœur de la capitale. D'autre part, ils ne rejettent pas la perspective d'aménager dans une cité universitaire moderne et confortable. Certes, ils préféreraient la modernisation de la cité déjà existante, mais le coût d'un tel projet est évalué à 2,5 milliards de couronnes, quelque 93 millions d'euros. Selon le recteur adjoint de la CVUT, Václav Havlíček, les négociations avec d'éventuels investisseurs dans ce projet sont en cours. Il faut se poser une question fondamentale. Combien coûterait l'hébergement d'un étudiant dans la cité universitaire après une réhabilitation aussi coûteuse ? Vu le montant des frais, le projet de transfert de la cité universitaire dans la banlieue de Prague devient de plus en plus probable.
L'histoire d'un SDF qui a sauvé un nouveau-né déposé dans une poubelle et qui s'est retrouvé lui-même en situation de risque a remis sur le tapis le problème de la réintégration des personnes sans abri. Yarka Gisubelova.
Au mois de décembre dernier, un SDF a découvert dans une poubelle un sac contenant un petit garçon né quelques heures auparavant. Le bébé retrouvé a été sauvé et son sort s'annonce favorable, contrairement à celui de son sauveur. Miroslav Samseli, qui a vécu pendant plus de 10 ans dans des canons, n'a pas supporté l'intérêt du public et des médias que son acte a provoqué. La récompense inattendue des autorités, une chambre dans un foyer d'asile, un emploi, a fait de lui le patient d'un établissement psychiatrique. En effet, il s'est écroulé sous le poids du changement radical de son style de vie. Après à peine un jour passé dans son nouveau domicile, au matin, il a sauté par la fenêtre de sa chambre. À l'hôpital où il a été transporté, il s'est attaqué au médecin qui le soignait. Il a dû être hospitalisé à la clinique psychiatrique pragoise de Bohnice. Le directeur de la clinique, Ivan David, confirme que l'homme souffre de graves troubles psychiques.
O diagnoze mluvit nemohu, ale chtěl bych říct, že...
Je ne peux pas révéler son diagnostic, mais je voudrais dire que le phénomène des SDF est la conséquence de la capacité réduite de ces personnes à s'adapter aux exigences de la société, ce qui fait que de nombreuses personnes se retrouvent dans la rue. Un tiers des SDF souffrent de maladies psychiques, notamment de psychose.
Ivan David réfute la spéculation selon laquelle les médias, de par leur intérêt accru pour l'homme qui a sauvé le bébé qui voulait rester dans l'anonymat, aient pu le pousser à sa tentative de fuite ou de suicide. Le sentiment d'être poursuivi fait justement partie de sa maladie. L'homme passera plusieurs semaines à la clinique, mais il est fort probable qu'il se retrouve ensuite à nouveau dans la rue. Son affaire a attiré l'attention sur un problème dont Prague souffre, l'absence de soins sociaux à ces personnes, dit Ivan David.
J'espère que son sort malheureux contraindra les conseillers municipaux, responsables de la politique sociale et du logement, à s'occuper de cette catégorie des personnes sans abri, mentalement malades, et de celles qui vivent à long terme dans des établissements psychiatriques et sont des SDF potentiels, car elles n'ont pas où aller une fois l'hospitalisation terminée, car la capacité des services sociaux à Prague est absolument insuffisante.
Selon un récent recensement effectué par la municipalité de Prague, le nombre de SDF dans la capitale tchèque serait autour de 2000. Des ONG telles que l'Armée du Salut évaluent ce nombre à plus de 3500 personnes. À la question de savoir si les soins aux SDF s'améliorent, le président de l'Armée du Salut, Pavel Ondrák, répond.
Dneska se město snaží mít strategii, mít nějakou koncepci.
La municipalité cherche à avoir une stratégie, mais qui est souvent plutôt négative avec des formes de répression. Les sans-abri sont chassés du centre-ville alors qu'il s'avère qu'il faut un travail individuel et de longue haleine avec ces personnes.
Selon Pavel Ondrák, si une personne vit pendant un an dans la rue, cela prendra au moins 3 ans avant qu'elle s'intègre dans la société.
Voilà, fin des faits et événements en République tchèque. Restez à l'écoute, tout de suite, on retrouve la rubrique sportive de la semaine.
Et de la vie. zátopkovi zbývají k vítězství. Vatřete tu Emilievský! Je na vodu! Máme zlatou...
Sport en République Tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous. Les sports d'hiver avec du ski de fond et du ski alpin figurent au sommaire de la première rubrique sportive de cette nouvelle année. En ski de fond, tout d'abord, nous reviendrons bien entendu sur la performance de Lukáš Bauer, vainqueur de la deuxième édition du Tour de ski, épreuve phare de la saison de Coupe du Monde. Puis en ski alpin, se disputait ce week-end à Spindlerhof-Mlin, deux épreuves de la Coupe du Monde féminine avec la championne du monde tchèque du slalom en vedette, Šárka Záhrobská. Lukáš Bauer est donc bien devenu dimanche dans le Val d'Ifiem le premier Tchèque à remporter le Tour de ski, prestigieuse série de 8 courses différentes disputées en 10 jours, faisant l'objet d'un classement particulier tout en s'inscrivant dans le cadre de la Coupe du Monde de ski de fond. Vainqueur de la première étape et en tête du classement général depuis la quatrième, le fondeur tchèque a encore accentué son avance en Italie lors du 20 km style classique samedi, puis du 10 km libre dimanche, pour finalement boucler le Tour de ski avec 2 minutes et 47 secondes d'avance sur l'Allemand René Sommerfeld et l'Italien Giorgio Di Zenta. Séparait seulement de quelques dixièmes de seconde pour les deuxième et troisième places. Inspiré du Tour de France cycliste et conçu pour être une compétition dans laquelle règne le suspense jusqu'au bout, le Tour de ski s'est même transformé par instant en un one-man show de Lukáš Bauer, aussi à l'aise en style classique que libre et dont le seul point faible cette saison reste les épreuves de sprint. Dimanche, la dernière des 8 étapes du Tour de ski, un 10 km libre, était marquée par la terrible montée finale longue de 3,5 km de l'Alpe Tchermis à plus de 1500 mètres d'altitude. Une ascension au cours de laquelle Lukáš Bauer a parfois donné le sentiment de savourer son succès, même s'il s'en défendait à l'arrivée.
Si j'ai donné cette impression, alors je peux vous assurer que c'en était qu'une. À chaque mètre, j'ai lutté contre l'idée de faire demi-tour et de descendre. Dès le début de la montée, j'ai senti que j'avais de moins en moins de force. Je n'ai pas trop fait attention aux encouragements des spectateurs et j'ai préféré faire la course à l'économie. Je me suis donc contenté de contrôler les écarts et j'ai été très surpris lorsqu'on m'a annoncé à un passage intermédiaire que je possédais environ 3 minutes d'avance sur le deuxième. Je dois dire que cela m'a bien aidé dans les derniers mètres.
En remportant ce tour de ski, Lukáš Bauer, vice-champion olympique en titre du 15 km classique, a signé à 30 ans non seulement la plus belle victoire de sa carrière, mais aussi l'une des plus belles de l'histoire du ski tchèque.
Je suis très heureux d'être parvenu à remplir le principal objectif que je m'étais fixé en début de saison, à savoir remporter le tour de ski. Ces 10 jours de course ont été difficiles. Je suis extrêmement fatigué, mais c'est une fatigue mêlée à la joie, même si je ne sais pas si je suis plus heureux de ma victoire ou que le tour de ski soit fini.
Grâce aux 400 points que rapporte la victoire finale dans le tour de ski, Lukáš Bauer se retrouve désormais également en tête du classement général de la Coupe du Monde avec un peu plus de 300 points d'avance sur son premier poursuivant, le Norvégien Thor Arne Hetland. Son prochain objectif est donc devenu encore plus grand qu'un triomphe dans le tour de ski, devenir le premier Tchèque à remporter la Coupe du Monde de ski de fond. En ski alpin, pour la deuxième fois de l'histoire, des épreuves de la Coupe du Monde féminine ont été disputées samedi et dimanche sur une piste tchèque. À Spindlerhof-Mlin, dans la plus importante station de sport d'hiver du pays, c'est l'Italienne Denise Carbone qui a remporté le slalom géant samedi, avant que la grande favorite autrichienne Marlies Schild ne s'impose dans le slalom cette fois dimanche. Le slalom, une discipline dont Šárka Záhrobská est la championne du monde en titre. Devant son public, la jeune Tchèque n'a cependant pu faire mieux que cinquième, une performance qui la tient encore éloignée de quelques dixièmes de seconde du podium, mais qui représente néanmoins la cinquième meilleure performance de sa carrière en Coupe du Monde. Surtout, Šárka Záhrobská était satisfaite de l'accueil qui lui a été réservé par le public tchèque.
Cette cinquième place me convient tout à fait. À l'arrivée de la seconde manche, je savais que j'avais réussi ma course et que je terminerais parmi les cinq ou six premières. Finalement, peu importait le classement final. Je dois remercier le public qui m'a beaucoup encouragée et dont une partie n'a pas hésité à grimper jusqu'en haut de la piste, ce qui n'est pas habituel dans les autres courses. J'ai bien entendu leurs encouragements pendant toute la descente et c'était vraiment une excellente ambiance.
Enfin, on termine avec un mot de football. C'est officiel depuis dimanche. Yann Kohler quitte le championnat de France et l'AS Monaco. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale avec 51 buts, dont le contrat dans la principauté arrivé à terme en juin prochain, a signé pour 2 ans et demi avec le club allemand du FC Nuremberg, 16e actuellement de la Bundesliga et où évoluent déjà 2 autres internationaux tchèques. Le montant du transfert n'a pas été précisé, mais devrait se situer, selon certains médias, aux alentours d'1 million d'euros. Arrivé à Monaco à l'été 2006, en provenance du Borussia Dortmund, Yann Kohler, âgé aujourd'hui de 34 ans, a marqué 12 buts en 50 matchs de Ligue 1 et ne laissera donc pas un souvenir impérissable en France, au contraire de ses passages fructueux en Allemagne et en Belgique, où il a notamment porté le maillot du RSC Anderlecht.
Et on passe tout de suite à la musique, alors restez à l'écoute.
Un peu de musique quand même. Alena Gebertova.
Les sœurs Iva Betova et Ida Kalarova sont des chanteuses hors du commun qui, tout au long de leur carrière, évitent les sentiers battus et s'engagent dans des genres différents. Samedi, elles ont donné un concert exceptionnel en se produisant en commun dans la salle pleine de la Lucerna à Prague, devant un public enthousiaste. Vous écoutez Ida Kalarova, 51 ans, dont le répertoire puise notamment dans la chanson « Rome ».
Asman, asman të diken Sa po son qabë Snuka gjith Mamo, mamo, so kërja Qërën qabë Chavo Slugaji La dame na jano Ani la nadikyo Chore na ne mukya Mukya amen Mukya amen Mukya amen Korkoren Mukya amen Korkoren Mukya amen
Iva Betova a 49 ans et non seulement chanteuse, mais également une excellente violoniste et comédienne qui brille sur les blanches et aussi sur le grand écran. Le rôle-titre qu'elle a récemment campé dans le dernier film de la réalisatrice Alice Nellis, Les Secrets, lui a apporté un beau succès. Les peintres à Paris est le titre de la chanson de Iva Betova que je vous propose d'écouter.
Ça va bien? Paříži, v Paříži, za sluneční záře, v Paříži malíři malují lidské tváře. Všechny tváře od oltáře, i ty hříšné z nás, chuděsi i milionáře, který z nich se kreslí, kreslí z nás. Ježíše na kříži, nebo tvář rytíře, slečí koupíří, chlápka v černém černeníře.
Cédera le micro encore une fois à la sœur aînée de Iva, Ida Kelarova. Elle est connue non seulement comme une interprète à une voix inimitable, mais aussi comme une pédagogue et une organisatrice d'ateliers et de projets pour enfants roms. Bacha Frala joue mon frère.
Le programme de Radio Prague en français se termine, mais l'info sur la République tchèque continue, et ce, sur notre site internet www.radio.cz. Merci de votre fidélité, à bientôt, ahoy!
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz, or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz, and at 1700 hours on 15710 kHz, and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 135